Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
Agnès Buzyn, question très directe. Est-ce que vous avez peur pour demain et pour après-demain ?
Je pense que nous avons préparé la journée de demain. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Monsieur Tabar parce que, en fait, quand nous disons que la journée de demain peut être très difficile, très compliquée, très violente,
qui vous accuse un petit peu de dramatiser la situation, accuser un mot un peu fort.
Ce n'est pas pour faire peur à l'opinion. C'est que, je pense sincèrement, nous sommes inquiets aujourd'hui pour nos forces de l'ordre. Ils prennent de plein fouet une violence inadmissible, avec des gens qui appellent à casser, y compris casser des policiers, avec des appels vraiment à une violence extrême. Nous voulons les protéger, et les protéger, c'est aussi leur permettre de faire leur travail dans de bonnes conditions. Et donc, si nous n'appelons pas au calme en disant que les gens de bonne foi qui aujourd'hui veulent défendre une cause sur le pouvoir d'achat fassent attention, parce qu'il y a derrière beaucoup de manipulations, beaucoup de violences. Si vous souhaitez manifester, manifestez sur les ronds-points dans le calme, mais ne venez pas à Paris. Ça permet aussi aux forces de l'ordre d'être en situation de ne pas avoir face à eux à la fois des gens de très bonne foi qui viennent manifester paisiblement, et des casseurs, tout ça mélangé avec une incapacité à faire le tri, ce qui est très compliqué. Et aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est pour la vie des personnes qui pourraient se retrouver au milieu de scènes d'extrême violence.
Donc, Agnès Buzyn,
je pense que c'est juste de la raison. C'est juste de la raison. Ça n'est pas pour faire peur aujourd'hui aux Français. C'est simplement soyons raisonnables. Nous avons des forces de l'ordre fatiguées, qui sont mises en tension depuis 2 ans avec l'état d'urgence, qui sont face à des gens d'une extrême violence, qui viennent pour casser avec des armes vraiment invraisemblables. Et donc, soyons raisonnables maintenant, arrêtons d'attiser cette violence.
Certains ministres parlent de moments dramatiques pour notre pays. Vous partagez ce sentiment ?
Oui, parce que...
Moments dramatiques, chaos.
On commençait à retrouver la fierté de la France. On était en train de retrouver une France très visible sur la scène internationale, admirée de tous, une économie qui repartait. Et on voit bien qu'en quelques scènes de chaos, comme on a vu à Paris la semaine dernière, tout cela s'effondre très vite. L'image qu'on donne de nous dans les télévisions internationales est déplorable, les touristes n'ont plus envie de venir. Voilà, donc c'est tout un travail de fond pour redresser la France qui s'écroule à cause de quelques milliers de personnes aujourd'hui.
Alors, effectivement, c'est peut-être quelques milliers de casseurs, mais il y a aussi une réalité, le mouvement des Gilets jaunes en France et sa popularité. Quand on voit justement la cote de popularité d'Emmanuel Macron, 23% aujourd'hui, ça baisse dans tous les partis. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance quand même au niveau de l'État.
Oui, il y a une crise de confiance vis-à-vis des politiques. Ce sont effectivement des revendications qui datent d'il y a 30 ans. Chirac, 95, parlait de la fracture sociale. Donc, ça veut bien dire que nos différents partis, nos différentes politiques n'ont pas réussi à résoudre cette fracture sociale.
23%, c'est plus bas que François Hollande.
Oui, ça correspond au socle du président Macron au premier tour de l'élection présidentielle.
Il baisse aussi chez vos électeurs.
Oui, je l'entends,
bien sûr. Pour comprendre que cette crise de confiance touche pas simplement, je dirais, les partis d'opposition.
Elle ne touche pas que les partis d'opposition. Aujourd'hui, les Français doutent de notre capacité à réduire cette fracture sociale. Le président, dans sa campagne présidentielle, avait fait le constat. Il était parfaitement lucide, puisque dès qu'il a fait ce gouvernement, il nous a dit que l'urgence, c'était qu'il y ait des résultats concrets pour les Français dans leur quotidien. Ça a été son obsession depuis un an que je travaille avec lui, que nous arrivions à avoir une politique qui se concrétise pour le quotidien des gens, pour augmenter le pouvoir d'achat.
Et c'est pas le cas.
Sa première mesure, ça a été de baisser les cotisations sociales pour faire en sorte que le travail paie mieux et que la fiche de salaire augmente, et de baisser la taxe d'habitation. Donc, évidemment, il est conscient de tout cela. Nous n'avons peut-être pas été assez vite, nous n'avons peut-être pas su le dire simplement, peut-être que nos mesures sont complexes, je l'entends, et surtout, je pense que face à cette impatience, notre façon de gouverner qui nécessite une réflexion, une co-construction, des consultations, des concertations avec les partenaires sociaux, des lois, des décrets, tout cela est long, et les Français nous le disent.
L'avenir du Premier ministre, je vais être assez cynique, est-ce qu'il se joue samedi en fonction de ce qui va se passer ? Beaucoup d'observateurs disent qu'Édouard Philippe est aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, cramé.
Ça, c'est le choix du président de la République. Édouard Philippe est un homme d'État, c'est un Premier ministre très, très raisonnable, très sérieux.
On sent quand même, Agnès Buzyn, un problème au sein de l'exécutif. Il y a notamment cette question du moratoire qui ensuite... voilà, Édouard Philippe, vous étiez avec lui à l'Assemblée nationale, il parle de suspension en ce qui concerne la taxe carbone, et puis quelques heures après, Emmanuel Macron dit on la supprime pour 2019. Voilà, on sent que la crise de confiance gagne aussi à l'intérieur même de l'exécutif.
Suspension, moratoire ou arrêt, aujourd'hui, il a été décidé de ne pas mettre dans la loi sur le budget le fait qu'il y ait une taxe supplémentaire. Donc, cette taxe n'existe pas juridiquement, donc elle ne se met pas en place et nous ouvrons une très grande concertation avec les Français dans tous les territoires pour discuter des impôts. Et je veux rappeler quand même, parce que j'entends trop dire « qu'est-ce qu'ils fichent avec notre argent ?» Je me souviens de cette première vidéo de Mme Moreau. « Qu'est-ce qu'ils foutent avec notre argent ?» D'abord, le gouvernement, les ministres, les administrations payent leurs impôts comme tout le monde. Donc, on est attentif à cet argent parce que c'est celui de tous les Français, mais c'est le nôtre aussi.
Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est...
Je termine. Oui. Et quand je vois quand même tout ce que nous payons aujourd'hui avec cet argent, je veux quand même le rappeler aux Français. Nous payons évidemment l'école, nous payons une santé qui est la moins coûteuse au monde pour les citoyens, la moins coûteuse. Nous avons le reste à charge pour les personnes le plus faible du monde. Donc, et elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut être soigné avec les médicaments les plus chers. On est un des rares pays à offrir ça. C'est là où vont nos impôts.
Mais Agnès Buzyn, aujourd'hui, quand on entend les annonces du gouvernement, la réponse en face, c'est trop peu, trop tard. Il y a véritablement un problème aujourd'hui de dialogue. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le fil est rompu entre vous et une grande partie des Français.
Nous verrons si nous arriverons à renouer ce fil. Moi, je crois que sur les impôts, il y a aussi un problème de compréhension de ce qu'est la citoyenneté dans un pays. Payer l'impôt, ça doit être une fierté, parce que d'une part, ça veut dire qu'on gagne suffisamment d'argent pour en payer. Je rappelle quand même aujourd'hui que 50% de nos concitoyens ne payent pas d'impôts. Alors certes, ils payent des taxes, ils payent la TVA, ils payent des taxes, mais pas d'impôts. Et les impôts, ça a été le choix de notre pays, et peut-être à tort, ça a été de, effectivement, de rendre quelque part, pas gratuit, mais en tous les cas, avec un coût très faible, un certain nombre de services publics accessibles à tous les Français. Peut-être qu'il faut revenir, ça fera partie des débats, mais aujourd'hui, nous devons faire en sorte que l'État travaille mieux pour moins cher. C'est ce que nous essayons de faire en essayant de faire cette transformation des services publics et de l'administration, une transformation de grande envergure pour réduire le coût de fonctionnement de l'État. Et puis nous essayons quand même de remettre des services publics en proximité, dans les campagnes, c'est notre choix aujourd'hui. Or ça, évidemment, ça nécessite un peu d'argent.
Mais Emmanuel Macron va s'exprimer en début de semaine, il faut du concret.
Oui, il faut du concret.
Donc il faut des annonces.
Oui, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que, en tous les cas, ceux qui sont toujours sur les ronds-points aujourd'hui réclament autre chose, en fait. Ils ne réclament plus d'annonces, il y a beaucoup de haine qui s'exprime, et ça devient très irrationnel. Donc, moi, je ne sais pas à quel point une annonce pourra calmer les irréductibles, entre guillemets. Moi, je pense que les Français ont compris qu'il y avait une véritable écoute et prise en considération de ce problème de la taxation, de l'impôt et du pouvoir d'achat, et que nous ouvrons une grande concertation nationale dans les territoires.
Ils ont compris qu'on... Ils vous répondent toujours la même chose,
oui,
ils vous répondent du
oui,
concret.
Oui, mais aujourd'hui, ce qu'on entend, malheureusement, ce qu'on entend sur les plateaux de télévision, sur les ronds-points, ceux qui restent quelque part très motivés, très mobilisés, ne demandent plus vraiment quelque chose de concret. Ils demandent à reprendre le pouvoir d'une façon différente. Ils remettent en question la démocratie participative, ils remettent en question les élus. Donc, est-ce que c'est cela que nous voulons collectivement ?
Une dernière question. Beaucoup disent que le quinquennat est terminé.
Nous verrons, je ne sais pas. Je ne peux pas, aujourd'hui, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a encore... nous avons des... Par exemple, je pense
vous
aux
réformes... Vous allez pouvoir réformer après cette crise ?
Je pense aux réformes qui sont dans mon champ d'activité, c'est-à-dire la transformation du système de santé que je fais aujourd'hui avec tous les partenaires, les hôpitaux, les cliniques privées, les grands syndicats professionnels d'infirmières, de médecins, des pharmaciens. Cette transformation, tous les acteurs la veulent. Ils sont d'accord. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait de faire cette réforme qui vise à rapprocher les médecins des Français, à les rendre plus accessibles et à rendre notre système de santé plus efficace. Je ne vois pas pourquoi nous arrêterons cette réforme. Tout le monde la souhaite.
Merci Agnès Buzyn. Juste un mot, votre ministère est mobilisé, bien évidemment, samedi.
Bien sûr, nous avons un centre de crise qui s'occupe évidemment des problèmes de santé, des flux dans les hôpitaux, des SAMU, et nous sommes évidemment toujours mobilisés quand il y a des grandes manifestations.
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci madame d'avoir répondu à mes questions. 8h27 sur Radio Classique, juste après le rappel des titres, et bien la revue de presse avec Michel Grossiore. Très bonne journée à vous.